Hypersensible, la fiction, aujourd'hui Aimé Césaire, le poète de la colère, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. Aimé Césaire, le prototype de la dignité humaine, comme l'écrivait André Breton. Poète, homme politique, opposant au colonialisme, cofondateur du concept de négritude, Aimé Césaire est la figure majeure de la lutte pour l'identité antillaise. Il détient aussi le record de longévité parlementaire. Il fut maire de Fort-de-France 56 ans et député de la Martinique pendant 48 ans. Mais Césaire, c'est avant tout un poète, et je ne peux résister à vous lire ces vers extraits du poème intitulé « Calendrier lagunaire ». J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite un vouloir obscur, j'habite un long silence, j'habite une soif irrémédiable, j'habite un voyage de 1000 ans, j'habite une guerre de 300 ans. Césaire disait, ma poésie est péléenne, comprenez, comme une éruption volcanique. Il parlait de la poésie, et je le cite encore, comme la communication par hoquet essentiel face à l'inepte bavardage. Césaire veut écrire sur cette foule inerte brisée par l'histoire et rêve d'un pays debout et libre. Regardez le siècle en face, tel fut son programme. Aimé Césaire est né en 1913 à Basse-Pointe, en Martinique, dans une famille de 7 enfants. Père fonctionnaire, mère couturière, il obtient une bourse pour ses études à Paris en Hippocagne, au lycée Louis-le-Grand, en 1931. C'est là qu'il rencontre Léopold Sédar Senghor, avec qui il noue une amitié immédiate et indéfectible. Tous les deux rencontrent d'autres étudiants africains et caribéens. C'est là également qu'il fonde le concept de négritude. Nègre je suis et nègre je resterai. En 1939, Aimé Césaire, diplômé de l'ENS, l'École Nationale Supérieure, rentre en Martinique avec sa femme Suzanne. Ils deviennent tous les deux enseignants au lycée Schœlcher, là même où il avait entamé ses études. Césaire était un rebelle et une figure politique d'un rayonnement mondial. Quant à la poésie, il disait qu'elle était la seule langue qui permet d'exprimer la complexité de l'homme. La seule avec le théâtre, la tragédie grecque qui fut le modèle de ses 4 pièces, dont la tragédie du roi Christophe. Le Festival d'Avignon rendit hommage à son travail. Dans un entretien qu'il donna à la revue Présence africaine, Aimé Césaire disait « C'est quoi une vie d'homme ? C'est le combat entre l'ombre et la lumière, une lutte entre l'espoir et le désespoir. » Je suis du côté de l'espérance, mais lucide, loin de toute naïveté. Aimé Césaire mourut le 17 avril 2008 à l'âge de 94 ans. Après la fiction, nous recevrons Daniel Maximin, poète, romancier, essayiste. Il a été un ami très proche d'Aimé Césaire.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai « Embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. »
Aimé Césaire, le poète de la colère, de Jean-Pierre Tiercelin. Une réalisation de Michel Sidorov. Novembre 2005, bureau d'Aimé Césaire, ancienne mairie de Fort-de-France, Martinique.
Oh, tout cela nous ramène bien loin, mon vieil ami. Nos combats ne datent pas d'hier, mais ils sont hélas toujours d'actualité. Oui, entrez. Voilà Joël qui va sûrement me dire que mon prochain rendez-vous est arrivé. C'est bien ça?
Effectivement, monsieur Césaire. Pardonnez-moi.
Mais je vous en prie, vous êtes la gardienne de mon agenda et le métronome de mes rendez-vous. Mon ami le comprend fort bien, n'est-ce pas?
Mais bien sûr. D'ailleurs, il est temps pour moi de vous laisser. Au revoir, monsieur Césaire. Portez-vous bien. Et merci encore pour la dédicace.
C'est de grand cœur. Au revoir, mon vieux, et le bonjour à ta charmante famille. Vous avez bien fait de frapper. C'est le fils d'un vieux compagnon de route tout à fait charmant, mais au bout d'un moment, vous allez me trouver bien dur, ma petite Joëlle, mais... Je me demande si toutes ces visites, plus chaleureuses les unes que les autres, ne finissent pas par me fatiguer un peu.
Vous ne changerez jamais. Si je vous écoutais, on aurait le double ou le triple de visites. Je suis obligée de me fâcher. Mais j'ai sans doute tort. Un brillant jeune homme de 92 ans qui se lève à 5 heures du matin après avoir travaillé une partie de la nuit n'a aucune raison d'être fatigué.
Vous avez raison. Je m'écoute trop. N'en parlons plus. Quel est le prochain visiteur ?
Il n'y en a pas.
Comment ça, il n'y en a pas? Plus de visites?
Non, enfin, pour ce matin. Par contre, il faut que nous parlions d'une autre visite. Beaucoup plus importante, celle-là.
Une visite importante? Je ne vois pas.
Vous ne voyez pas, monsieur Césaire? Je commence à vous connaître. Vous ne voulez surtout pas en entendre parler.
Allez toujours.
Je ne sais plus quoi faire. Le chef de cabinet du ministère de l'Intérieur vient encore de téléphoner. Monsieur Nicolas Sarkozy veut absolument être reçu par vous le 8 ou le 9 décembre, lors de son prochain déplacement officiel en Martinique.
Jamais.
Jamais? Vous me voyez répondre jamais au chef de cabinet? Ce n'est pas sérieux, monsieur Césaire.
Jamais, vous m'entendez? Jamais. Et je n'ai jamais été aussi sérieux. Tenez-vous-le pour dit.
Mais tout de même, c'est le représentant du gouvernement.
Justement, ce représentant officiel du gouvernement français vient de faire voter une loi qui défend les bienfaits de la colonisation, avec des programmes scolaires qui expliquent le rôle positif de la présence française outre-mer. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, moi, Aimé Césaire, je vous dis que ce n'est pas une visite, c'est une insulte.
Mais tout de même...
Non, ça suffit, et foutez-moi la paix. Pardonnez-moi, ma petite Joëlle. J'ai tort de me mettre en colère et je vous fais de la peine. Ce que je ne souhaite en aucun cas. Ne vous inquiétez pas pour la réponse. Je vous dicterai une lettre du meilleur style officiel. Ce n'est pas aux vieux singes politiques que ces jeunes carnassiers vont apprendre à faire la grimace. Allez, effacez-moi cette buée de vos jolis yeux et venez vous asseoir.
Je peux ranger les livres ?
S'il n'y a plus de visiteurs.
Je vois que c'est toujours le cahier d'un retour au pays natal qui part comme des petits pains.
Ils insistent pour que je leur dédicace celui-là, même si ce n'est pas le plus facile.
En tout cas, les visiteurs ont bien de la chance. Ils ont droit à une dédicace, eux. Moi, c'est toujours pour plus tard.
Ouh, je sens que vous êtes vraiment fâchés. Mais comprenez que pour vous, je veux prendre le temps de faire une belle dédicace personnelle. Bon, mon stylo. Allez, donnez-moi ce livre. Il ne sera pas dit que...
Le discours sur le colonialisme?
Ah, le discours sur le colonialisme, justement. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Ma petite Joëlle, vous pensez vraiment qu'après avoir écrit il y a plus de 50 ans, ce discours sur le colonialisme, qui est le fondement de ma pensée, je vais contribuer à valider une loi infâme en tombant dans le piège de cette visite?
Non, monsieur Césaire, je ne le pense pas. Et je ne pense pas non plus que ma dédicace soit pour aujourd'hui. Vous avez dit 50 ans?
Eh oui. Ce petit livre a tout juste 50 ans. C'est en 1955 qu'Alioune Diop m'a proposé de l'éditer dans sa maison d'édition Présence africaine. Ce furent des années cruciales, vous savez.
Au fond, ce que le très humaniste et très chrétien bourgeois du XXe siècle ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme. Ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi. C'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc. Et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulisses de l'Inde et les Nègres d'Afrique.
1955, bureau d'Alioune Diop, édition Présence africaine, Paris.
Toc, toc, on peut entrer?
Césaire, entre mon ami. Alors, comment se porte monsieur le député?
Le député est bien content d'avoir quitté la chambre, du moins pour aujourd'hui. Les petits jeux parlementaires me navrent et m'épuisent. L'autre jour, il y en a un qui m'a lancé que je n'étais qu'ingratitude envers un pays qui m'avait permis d'apprendre à lire. Je lui ai juste répondu que mon grand-père était instituteur. Ils aimeraient bien me voir lâcher prise, mais je ne leur ferai pas ce plaisir.
Tu leur fais peur, voilà ce qu'il y a.
Peur? La peur du nègre? Attention, je vais pousser mon grand cri.
Non, je t'en prie, le grand cri nègre vaut beaucoup mieux que cela. Non, plus sérieusement, ce qui leur fait peur, c'est tout ce qu'ils ne sont pas. Tu es un homme de gauche, un écrivain, un poète.
Ceux qui ont lu le cahier d'un retour au pays natal n'y ont pas compris grand-chose.
Je n'en suis pas si sûr. Le fond ne leur a pas échappé. De plus, tu es un redoutable orateur et tu as le culot de rester poète dans tes discours. Et ça, ils ne le supportent pas. Et puis toi, tu travailles. Tu connais les dossiers comme personne et tu ne lâches rien. Sinon, comment expliquer qu'un jeune député martiniquais de 33 ans, fraîchement élu, ait obtenu la loi de départementalisation aussi rapidement?
Tu oublies une chose. C'était en 46, il y a bientôt 10 ans. Et depuis?
Comment ça, depuis?
Eh bien, depuis, pas grand-chose. La Martinique n'est plus une colonie. Elle est devenue un département français, ce qui m'avait semblé la moins mauvaise solution. Seulement, le gouvernement français freine des quatre fers. Les réformes tardent. Tout ce que j'obtiens, il faut l'arracher avec les dents. Tu m'entends? Avec les dents. Et ça se fait toujours à l'occasion de crises ou d'émeutes. Jamais autrement. Mais tu as connu ça.
Mais moi, j'ai mis fin à cette farce depuis longtemps. J'ai la faiblesse de penser que je suis plus utile comme éditeur de Présence africaine.
Et aussi comme producteur. Elle est belle, cette affiche. Les statues meurent aussi. Le film est toujours interdit.
Oh oui, et pour longtemps, je pense. Le prix Jean Vigo n'y a rien fait. La censure est intraitable. La réalisation d'Alain René et Chris Marker est pourtant remarquable, mais ça, ils s'en foutent.
Pourquoi l'art nègre se trouve-t-il au musée de l'homme, alors que l'art grec ou égyptien se trouve au Louvre? Voilà des questions qu'il ne faut pas poser dans un film, sous peine de se faire taxer d'anticolonialisme.
Et ils ne s'en cachent même pas. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais te voir.
Je t'écoute.
Puisque tu as récupéré tes droits, je pense qu'il est vraiment temps que nous rééditions le discours sur le colonialisme.
Je t'en remercie. C'est important pour moi qu'il y ait maintenant une véritable édition de ce texte. Tu sais que je ne cesse de le retravailler.
Tu veux aller plus loin?
Oui. Au-delà de mon analyse pour démonter le système colonial en expliquant que la colonisation conduit à la barbarie et décivilise même le colonisateur, j'aimerais développer l'équation « colonisation égale chosification ».
Chosification?
Oui, c'est pas facile à dire, mais pour le moment, je ne trouve pas d'autre mot.
C'est pas grave, on n'est pas à la radio. Les nazis, ils avaient un mot comme ça pour désigner les déportés destinés à crever au travail. Stück. Littéralement, morceau. La réduction de l'homme à l'état de choses.
J'en profiterai aussi pour remettre à leur place quelques personnalités littéraires et politiques qui se sont déshonorées par leurs propos.
Je te fais confiance, mais garde un peu d'énergie pour la suite car je vais avoir besoin de toi.
Il y a du nouveau ?
Oui, tout d'abord, à côté de l'édition, je lance une nouvelle formule de Présence africaine et je l'ouvre au plus grand nombre. Il faut que nous posions enfin les bases d'un art poétique nègre autour de l'engagement, la liberté poétique et la conscience de l'histoire. Et évidemment, je compte sur toi.
Comme tu pourras compter aussi sur Sangor, sans aucun doute.
Bien sûr, je ne vais pas me passer des deux chantres historiques de la négritude. D'autant que j'ai un autre projet très important.
De quoi s'agit-il?
Organiser l'année prochaine à Paris un congrès international des écrivains et artistes noirs.
Rien que ça. Mais c'est une idée magnifique. C'est le succès de la conférence de Bandung qui t'a décidé?
Bien sûr. Comme tu le sais, avoir assisté à cette conférence a été pour moi une révélation. 29 pays du tiers-monde, réunis pour la première fois, qui proclament que chaque peuple a le droit de développer sa propre culture, c'est un tournant dans l'histoire.
Alors tu as décidé de transformer l'essai.
Exactement, et développer les acquis de cet événement. Mais cette fois, l'Afrique sera à l'honneur, et elle le sera par ses écrivains et ses artistes.
Et ces pays ne sont pas indépendants. Pas encore.
Justement. La culture, c'est une puissance de libération et de solidarité. Si le noir écrit, c'est qu'il pense. Et s'il pense, c'est qu'il existe. Toi et Senghor, vous serez les piliers du congrès. Mais il faut qu'il y ait un maximum d'intellectuels et d'artistes africains.
Et américains. Pour la Caraïbe, je pense aussi à Jenny Alpha et au jeune Édouard Glissant.
J'ai déjà la réponse de Dubois, ou Du Bois, comme on dit là-bas, le grand défenseur des droits civiques des Noirs américains. Richard White, Josephine Baker, Louis Armstrong, Paul Robeson et James Baldwin, le plus parigot des Afro-Américains.
Bon début. Maintenant, il nous faut trouver un lieu prestigieux à la hauteur de l'événement.
J'ai déjà ma petite idée.
On peut savoir ?
La Sorbonne.
Ah, on ne se refuse rien. Mais tu as raison, il faut viser haut, très haut. Mais c'est pas gagné.
Chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée, une jeune fille violée, et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent.
Matin du 21 septembre 1956, terrasse du tabac de la Sorbonne, Paris.
Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi...
James! Mais tu es un vrai crooner. Comment va Mr. Baldwin? Tu as quitté ton quartier général?
Oui, je déserte le tournon momentanément.
Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que les habitués n'osent plus ouvrir la bouche. Ils ont peur les uns des autres. Mon bistrot favori est bourré d'agents de la CIA. Tu prends un café?
Vite fait alors. J'ai promis à Aimé de le rejoindre avant l'ouverture des débats.
C'est à deux pas, on y va ensemble. Un café, s'il vous plaît.
Ça roule.
Tu sais que je suis scrupuleusement l'intégralité du congrès. J'aimerais plus tard rendre compte de cet événement incroyable. Pour moi, qui ai quitté les États-Unis pour fuir la discrimination raciale, voir plus de 50 artistes, écrivains, historiens, poètes, philosophes, réunis pendant 4 jours à la Sorbonne à Paris. Et tous noirs, du plus beau noir.
Et voilà, un petit noir. Oh, pardon.
Ne vous inquiétez pas, un petit noir, ça me va très bien.
Je ne voulais pas...
Mais non, bien sûr. Rassurez-vous, je vis à Paris depuis 8 ans et moi-même, je n'hésite pas à prendre un petit blanc au comptoir. Tenez, gardez la monnaie.
Merci beaucoup.
Il est gentil.
Ouais, il a l'air. Mais quand il aura fini son service et bu quelques apéros, c'est peut-être lui qui nous traitera de sale négro.
Alors dans ce cas, tu appliques la méthode Césaire quand il était étudiant ici au quartier latin? Eh bien, mon cher, le nègre vous emmerde.
Mais lui, c'est un grand poète.
Et toi, un grand écrivain. Et tu es prié de ne pas répondre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'agent de la CIA au tournon?
Et même aux États-Unis, on sait que le tournon est le café des Afro-Américains. De là à en déduire qu'ils y fricotent avec des agents communistes, il n'y a qu'un pas.
Remarque, la préfecture de police n'est pas en reste. Il y a comme une floraison de képi bleu.
Faut se mettre à leur place. Des intellectuels noirs qui se réunissent à Paris pour parler d'indépendance sur fond de guerre d'Algérie. Ça finit par angoisser le gouvernement français. Et voilà notre cher Paris, bourré de flics et d'espions américains.
Du moins la rive gauche.
Que j'avais rebaptisé la rive noire. Celle des écrivains, du jazz et de la liberté. Mais là, le noir prend un autre sens. Je suis sûr qu'on nous surveille.
Tu es sûr de ne pas lire trop de séries noires?
Mais Suzanne, il faut que tu te rendes à l'évidence. Il y en a partout. À la Sorbonne, les bancs de l'amphithéâtre Descartes en sont truffés.
Et certains participants noirs américains eux-mêmes...
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je veux dire que nous sortons à peine du McCarthyisme. Et que beaucoup des délégués noirs accrédités sont avant tout des Américains. Et souvent des anticommunistes convaincus. Pourquoi crois-tu que Paul Robeson s'est vu refuser son passeport ? Quant à Richard Wright, il semblerait qu'il se soit mis à la disposition de l'ambassade américaine.
Je ne peux pas le croire. C'est pour ça qu'après la communication de Césaire hier après-midi, il a menacé de quitter le Congrès ?
Mais pas seulement. Le texte de Césaire, Culture et colonisation, est remarquable. Quand il reproche à l'Europe d'avoir brisé dans leurs élans des civilisations qui n'avaient pas encore tenu toutes leurs promesses, il pose la bonne question. Le problème, c'est que dans la même salle, il y a d'un côté des Africains qui revendiquent leur indépendance et de l'autre, des Afro-Américains qui revendiquent leur intégration. Il va être difficile de s'entendre. Il faut qu'on y aille ?
Oui, on parlera en marchant.
Nous sommes aujourd'hui dans le chaos culturel. Notre rôle est de dire... Libérer le démiurge qui seul peut organiser ce chaos en une synthèse nouvelle. Une synthèse qui méritera, elle, le nom de culture. Une synthèse qui sera réconciliation de l'ancien et du nouveau. Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple. Laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
Matin du 21 septembre 1956, cours de la Sorbonne.
Oui, j'ai beaucoup écrit du temps de notre revue Tropique. Il y avait une véritable osmose entre Aimé et moi.
Tu n'écris plus ?
Pas pour le moment. Il y a les enfants et mon métier de femme, de poète et d'homme politique. Et heureusement, des moments enthousiasmants comme aujourd'hui. Tout ce monde, c'est magnifique.
Tiens, voilà ton grand homme.
Ah, salut Baldwin. Alors, on tient le choc ?
C'est à toi qu'il faudrait poser la question. Je voulais te féliciter pour ta magnifique intervention d'hier soir.
Tu es bien gentil, mais tu as remarqué qu'elle n'était pas du goût de tout le monde.
Pourtant, l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire des Noirs. Et ce n'est pas une belle histoire. Ce congrès a le mérite de réunir des gens différents. Mais pour les Africains, le colonialisme est une insurmontable barrière, alors que les autres sont stigmatisés par l'esclavage.
Je m'attends donc à mijoter sur le gris une bonne partie de la journée. Mais rassure-toi... J'ai le cuir tanné et une bonne provision d'arguments dans ma sacoche. De toute façon, il faudra bien s'entendre au final. Il est hors de question de laisser partir les Américains sur un malentendu. Ce congrès doit être une réussite.
Alioune Diop et Senghor vont intervenir.
Oui, bien sûr. On peut compter sur eux pour mettre les bouchées doubles.
Il semble que l'Amérique ait du mal avec la notion de négritude.
La négritude, c'est ce mot « nègre ». Que les Blancs nous jettent à la figure et que nous avons ramassé pour en faire un mot défi, un mot transformateur. Mais c'est avant tout un humanisme. C'est uniquement comme ça qu'il faut le comprendre. L'essentiel aujourd'hui est que la notion d'indépendance soit désormais dans tous les esprits et que le monde noir réintègre l'ordre du visible.
Si j'en juge par la couleur de la foule qui nous entoure, c'est plutôt une réussite, non ? Pour la première fois depuis des siècles, la Sorbonne est noire de monde.
Pourtant, quitte à te contredire, j'aurais aimé, ça et là, quelques taches blanches qui auraient montré l'intérêt du public de la capitale. Heureusement, les étudiants antillais sont venus en force.
La presse préfère parler de la grève des boulangers.
C'est un moindre mal. L'article que j'ai lu ce matin au café expliquait à propos de notre congrès... que sans les Blancs, il ne resterait pas grand-chose de l'Afrique. No comment.
Non, ça n'en vaut pas la peine. Mais je ne souhaite qu'une chose, qu'un jour on ne soit pas obligé de dire qu'à cause des Blancs, il ne reste plus grand-chose de l'Afrique. Ah, ça bouge. Allons, suivons le mouvement et entrons dans la cage au lion.
J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de 1000 ans. J'habite une guerre de 300 ans.
Mars 2006, face à la mer, Martinique.
Et voilà, quelques semaines après, j'envoyais ma lettre à Maurice Thorez pour lui signifier ma démission du Parti communiste. Ça a fait un de ces baroufs, mais je me sentais enfin moi-même. Et dans la foulée, j'ai créé le Parti progressiste martiniquais. Une autre aventure.
Finalement, le congrès a été un événement positif.
Très. J'oserais même le qualifier d'historique. Ensuite, en 1959, nous avons organisé un autre congrès, à Rome, autour des indépendances. Signe que le premier avait porté ses fruits. Mais la plus belle apothéose de tout cela, ce fut le premier festival mondial des arts nègres à Dakar, à l'invitation de Senghor, dans un Sénégal indépendant. Une véritable explosion de création.
Avec la tragédie du roi Christophe, d'un certain Aimé Césaire.
Eh oui, on ne va pas se mettre à parler de mon théâtre.
Pourquoi ?
Même si mon théâtre est lui aussi politique, cela nous emmènerait trop loin. Tenez, asseyons-nous sur ce banc. J'aime cet endroit. Ce rocher de la femme endormie. J'aime à y rêver de Suzanne. Pour moi, elle n'est pas entièrement morte, vous savez. J'aime y méditer sur tout ce que je n'ai pas fait. Ce que j'aimerais pouvoir encore faire. J'aime y griffonner quelques bribes qui pourraient peut-être devenir quelque chose. Ce qui vous permet de me faire les poches, ne niez pas, je le sais.
Je ne fais que ranger bien sagement.
Mais oui, ma petite Joëlle. Écoutons la mer pour nous ressourcer et nous reposer l'esprit. Il m'a fatigué, ce garçon, ce matin. Et toute cette effervescence autour de lui. Quel cinéma !
Et autour de vous ! C'est vous le grand homme que tout le monde se dispute. Lui, il a eu ce qu'il voulait. Vous avez fini par le recevoir. C'était bien la peine de monter sur vos grands chevaux.
On ne va pas recommencer. La loi a été abrogée le mois dernier. Qu'est-ce que je pouvais faire ? J'étais coincé. Alors je l'ai reçu. C'est fait, et on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?
Je pense au moment où vous l'avez appelé Laurent Sarkozy. J'ai vraiment failli éclater de rire.
C'est ce qu'on appelle un acte manqué. J'ai reçu mon cher ami Fabius il y a quelques jours. Une visite qui, elle, m'a fait grand plaisir. Je vous rappelle qu'il avait vigoureusement combattu cette loi scélérate. C'est mon inconscient qui a parlé et hop, c'est son prénom qui est sorti. Quant à l'autre, j'espère qu'il a eu son content et qu'il va me laisser tranquille. C'est pas de l'amour, c'est de la rage.
N'y comptez pas trop.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je l'ai vu ce matin. Il ne va tout de même pas revenir à la charge.
Non, pas tout de suite. Mais si un jour il devient président...
À Dieu ne plaise. Ce jour-là, je serai peut-être mort.
Justement.
C'est gentil. À quoi pensez-vous ? Vous croyez qu'il aurait une idée derrière la tête ? Du genre, aller me fourguer dans son panthéon avec discours et tout le tralala sans me demander mon avis ? Mais ce serait de la pure récupération. Jamais. Vous m'entendez, jamais.
Finalement, j'aime bien quand vous criez jamais. Mais là, je vous suggère de prendre vos précautions.
Je veux rester sur mon île. Vous allez m'aider à prendre ma disposition.
Volontiers. N'empêche que lui, il a eu droit à une dédicace. Alors que moi...
Allons bon. Voilà que ça recommence.
Et venant, je me dirais à moi-même, et surtout mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle. Car une mer de douleur n'est pas un proscénium. Car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse.
Tu parlais toujours de femme.
C'était Aimé Césaire, le poète de la colère, de Jean-Pierre Tiercelin, avec Alex Descas, Aimé Césaire, Hassan Timbo, James Baldwin, Ludmila Dabo, Suzanne Césaire, Modeste Nzapasara, Alioune Diop, Sabine Pacora, Joël Jules Rosette, Ricky Tribord, La Voix du Poète, Daniel Krellenstein, Le Garçon de Café, Stéphane Sestak, Le Visiteur. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Michel Sidorov.
Allô? Allô? Encore une nuit? Pas la peine de chercher. C'est moi, l'homme des cavernes. Il y a les cigales qui étourdissent leur vie comme leur mort. Il y a aussi l'eau verte des lagunes. Même noyée, je n'aurai jamais cette couleur-là. Pour penser à toi, j'ai déposé tous mes maux au mont de piété, un fleuve de traîneaux, de baigneuses, dans le courant de la journée, blonde comme le pain et l'alcool de tes seins. Allô? Allô? Être à l'envers clair de la terre, le bout de tes seins a la couleur et le goût de cette terre-là. Allô, allô, encore une nuit. Il y a la pluie et ses doigts de fossoyeur. Il y a la pluie qui met ses pieds dans le plat. Sur les toits, la pluie a mangé le soleil avec des baguettes de chinois. Allô, allô, l'accroissement du cristal, c'est toi. C'est toi, eau absente dans le vent et baigneuse de lombrique. Quand viendra l'aube, c'est toi qui poindra tes yeux de rivière sur les mailles bougées des îles. Et dans ma tête, c'est toi, le maguet éblouissant d'un ressac d'aigle sous le banyan.
Il n'y a pas les grands et les petits, il y a, nous sommes tous des peuples et nous méritons d'être considérés comme des peuples avec la dignité que cela représente. J'ai apporté une parole d'homme. Il y a l'homme, et ça c'est très important. L'homme tout court, je crois vraiment à l'homme, à l'humanité et à la fraternité. Et quand je parle de négritude, c'était pour répondre précisément aux racistes. Hein, qui ne considéreraient comme des nègres, autrement dit des riens. Eh bien non, nègre, vous m'appelez? Eh bien oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Aimé Césaire, le poète de la colère, notre invité Daniel Maximin, écrivain et ami d'Aimé Césaire. Bonjour Daniel Maximin.
Bonjour.
Merci
bonjour,
d'être Fabrice avec Noël. Nous, merci. Vous êtes très proche d'Aimé Césaire, vous avez écrit Aimé Césaire, Frère Volcan, c'est votre livre. Un très beau livre, à la fois biographique, mais aussi récit intime, introduction à la pensée et à l'œuvre de Césaire à travers vos échanges libres pendant plus de 40 ans. Et ce livre est paru en 2013 aux éditions du Seuil. Alors votre CV est très complet, je vais essayer de le résumer. Vous êtes professeur de lettres et d'anthropologie. Vous avez pour le ministère de la Culture été commissaire général de trois manifestations nationales. nationale. Vous avez publié de nombreux ouvrages primés comme C'est l'enfance aux éditions Gallimard, qui a reçu le grand prix Maurice Genevoix de l'Académie française. Et puis, à l'occasion du centenaire de la naissance de Césaire en 2013, vous avez collaboré à la dramaturgie de la pièce Une saison au Congo, produite par le TNP et mise en scène par Christian Scaretti. Voilà, donc vous connaissez bien Aimé Césaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous étiez amis, nous allons revenir sur cette relation forte. D'abord, vous demandez quelque chose qui peut paraître à première vue incompatible, mais enfin, Césaire le poète, proche de Breton et des surréalistes, de René Char, de Léopold Sédar Senghor, engagé et rebelle, comment est-ce qu'il a pu rester maire et député pendant près de 50 ans dans un milieu qui est très codifié, où la parole n'est pas forcément libre,
hein? Parce que c'était le contact avec le réel. Et que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, qu'ils perdent du temps à aller s'occuper des routes, des chemins, des cases à construire, des gens qui viennent pour une bourse pour l'école, pour les enfants, c'est ça qui le mettait en contact avec la profondeur de ce qui ensuite va susciter l'engagement, la poésie. C'est pas par l'idéologie, c'est par le contact avec les humains.
C'est la recherche d'un équilibre, en fait. Équilibre entre le réel et l'invention du réel, le monde
oui,
idéal.
Oui, on peut dire ça, mais c'est surtout comme il dit. Moi, quand je me réveille Trenel, je me réveille Texaco, c'était le nom de ces quartiers populaires. Et il est là-dedans. Césaire, tous les matins, quand il était à la mairie, il allait sur les chantiers. Et le bâtir une œuvre, bâtir l'homme et bâtir des cases, c'est la même chose. Surtout quand c'est bâti à partir du néant, à partir de rien, à partir des douleurs anciennes, à partir même pour Fort-de-France, qui est bâti sous la mer, à partir de la boue, de la main. Et il dit, je suis fier, j'ai fait mes polders. Et on construit et faire en sorte que le peuple participe à cette construction. Édifier le peuple, édifier des cases pour les gens, édifier des écoles, c'est des variantes de la même chose.
Ma poésie est péléenne, disait-il, comme une éruption volcanique. C'est pour ça que vous avez intitulé votre livre Aimé Césaire, frère volcan.
Oui, parce que moi, c'est la soufrière en Guadeloupe, comme Guadeloupéen. Et notre dialogue, c'est l'écrivain Vincent Placoli qui avait eu cette formule, le frère volcan, le nom d'une de ses œuvres. Nous sommes des frères volcans. Quand il dit, elle est péléenne, ma poésie, toute la Caraïbe est comme ça péléenne. C'est une éruption parce qu'on n'a pas l'espace, hein, les îles. Vous voyez, 1000 km² pour
petit,
lui.
Oui.
Et on n'a pas le temps. Ça fait 3 siècles seulement qu'on a commencé, qu'on est là, par rapport au millénaire des continents. Et donc, quelque part, seul le jet, seul la flamme peut nous permettre de donner notre feu. On n'a pas le temps des braises. On n'a pas le temps du temps. C'est pour ça qu'il y a tant de poésie. Parce que des fois, en un mot, en un vers, on dit les choses. Pour dire l'espoir, n'y aurait-il dans le désert qu'une graine volante qui rêve tout haut? Dans le désert, n'y aurait-il qu'une goutte d'eau qui rêve tout bas? C'est assez. Voilà. C'est la condition humaine. Et grâce à la poésie, grâce à la musique, grâce au choix des mots, on a quelque chose où on peut aller à l'essentiel sans avoir l'espace des gens qui ont tout l'espace qu'il faut et tout le temps qu'il faut.
Césaire se nommait, lui, le nègre vertical. Hein. Breton disait de lui qu'il était le prototype de la dignité humaine. Édouard Glissant l'appelait le nègre fondamental. Expliquez-moi un peu tout cela.
D'abord, il ne faut pas abuser du mot nègre quand on parle d'Aimé Césaire, parce que, comme il me disait, c'est un peu sa casserole que l'affaire de négritude.
Ah bah oui, mais
parce
bon,
que,
voilà.
Parce que, oui, pourquoi? Parce que les gens qui ne connaissent pas traduit négritude, ah c'est bien, ils s'occupent des nègres, les pauvres, ils ont tellement de problèmes que... Non,
c'est pas ça.
C'est de l'humain et de l'homme, et un nègre qui s'en occupe, et des autres. Et c'est en ce sens-là que nègre, il n'est pas plus fondamental qu'autre chose, parce que Césaire est modeste. Je vous dis que là, jusqu'à la fin de sa vie, il recevait tout le monde dans la mairie, où tous les matins, comme maire, il allait sur les chantiers. C'était pas annexe ni secondaire. C'est quelqu'un qui est très proche, et c'est pour ça que sa poésie, elle est fondamentale, elle est fondatrice, et elle peut passer comme ça, de manière universelle. Parce qu'un paysan chinois, c'est de lui qu'il parle. Quand il dit, il faut creuser le sillon, il faut modeler l'ado pour fabriquer une œuvre, ou fabriquer une plante, ou faire pousser de la canne à sucre. Mais c'est valable pour faire pousser le riz en Chine ou le manioc en Afrique. Et quelque part, ce sont des choses finalement très terriennes. et qui sont donc fondamentales et fondatrices. Et un peu, je dirais, le secret de tout cela, c'est parce que Césaire, c'est un paysan. Vraiment, c'est pas une blague quand on dit c'est la personne qui connaissait le mieux tous les arbres de la Martinique, avec le moment où il pousse, avec ce que chaque feuille donne, etc. Et c'était sa respiration. Or, cette nature, c'est elle qui est le modèle. Le Péléen veut dire quoi, vous voyez, on détruit 35 000 personnes, tout fout le camp, tout est brûlé, et ça repousse. Ouais. Ça repousse, parce qu'une éruption, c'est de la fertilisation. Si la Martinique et la Guadeloupe existent, c'est parce qu'il y a eu des éruptions où le feu a tellement fait surgir la terre au milieu d'un océan qu'il n'en voulait pas.
Alors, c'est vrai qu'on ne va pas réduire l'œuvre et la personnalité d'Aimé Césaire à ce qu'on appelle la négritude. Oh. Bon, enfin, c'était quand même un concept important. Léopold Sédar Senghor l'a porté.
Oui. Je vous dirais que c'est un peu ce que lui reproche Césaire.
Allez, dites-moi.
D'abord, fait comme ça, comme un concept, vous voyez. Parce qu'il était comme ça, son copain Léopold. Et que, mais c'est pas un concept, c'est un cri. C'est que quand on dit sale nègre, on répond non, j'ai pas sale nègre, je suis fier. Mais il dit ça n'a de sens que s'il y a un mépris. Sinon, c'est une prétention. Quand on dit « Black is beautiful » au moment d'Angela Davis, ça ne veut pas dire que les Noirs sont plus beaux que les autres sur la Terre. Ça veut dire que je revendique quelque chose qui est un mépris et que ces cheveux qu'on me dit ils représentent la sauvagerie, eh bien, je vais les magnifier en faisant des coiffures afro, mais c'est pas parce que c'est plus beau que le reste du monde. Et après ça, c'est pour dire que je suis un être humain comme les autres et qu'il n'y a pas de supériorité de beauté blanche, noire, jaune ou verte.
La poésie exprime le monde. Est-ce qu'elle peut le changer?
Eh oui, parce que c'est la parole essentielle, dit Césaire, face à l'inepte bavardage, comme vous l'avez dit au début. Et oui, parce que, écoutez, nous sommes dans un monde d'excès de bavardage, en fait, de partout. Parce que l'homme se cache avec les mots. L'homme essaie de tromper l'autre, ou au contraire de s'en séparer, ou de dire ce que lui est. Et pour ça,
et parfois
on a
le tuer, parfois les mots sont des armes.
Parfois, bien entendu. Et que quelque part, respecter les mots. Respecter l'autre à travers le langage qu'on emploie. Par exemple, il n'y a pas de mépris dans la poésie. Il n'y a pas d'injure dans la poésie. Même si c'est pour parler contre Hitler ou le nazisme dans une poésie d'Éluard. Et la poésie est une parole essentielle qui me fait que je dois respecter le langage et la langue pour pouvoir le transformer, le dominer, ne pas être une victime de la grammaire et de tout ça, pour inventer, pour imaginer. La poésie, chaque vers, parmi les millions de vers qui ont été faits depuis que l'homme est l'homme, chaque vers qui est fait maintenant, il est un nouveau vers. Et donc, quelque part, c'est un effort de quoi? De liberté, de création. C'est pour ça que Césaire, c'est pas que la révolte, c'est la révolte créatrice. Comme disait quelque part, enfin, ben, je cite souvent Charvet, rébellion, merveilleux et bienfaisance. Les trois ensemble. Et le poète, c'est ça. Et la poésie, c'est ça. Une révolte, oui, mais pas une révolte destructrice. Créatrice et imaginaire.
C'est René Char qui a dit ça?
Oui.
D'accord.
Oui. Hâte-toi de transmettre ta part de rébellion, de merveilleux, de bienfaisance. C'est la définition de Césaire, de tout poète.
Bien. La poésie sur la musique, ça fait une chanson. On va écouter, on se retrouve tout à l'heure. La cascade, tout baigne. Daniel Maxima, on se retrouve pour parler d'Aimé Césaire. Je me suis laissé dire, alors vous confirmerez ou pas, que des gens comme Mandela, Djibaou, donc oui. On l'a peut-être un peu oublié, mais qui était l'un des protagonistes importants du conflit en Nouvelle-Calédonie, ont été inspirés par Aimé Césaire.
Mais oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'ennemi, sinon celui qu'il faut transformer au lieu de le détruire complètement? C'est ça. Djibaou venait voir Césaire pour lui dire comment vous avez fait après l'esclavage. Comment vous avez fait pour ne pas avoir une haine séculaire contre les anciens oppresseurs et par exemple qui étaient tous blancs. Donc
comment je préfère pas avoir la haine du caldoche.
Voilà.
C'était ça en l'occurrence.
Mais pour dire nous allons fabriquer, et c'est nous les Kanaks qui disons que nous allons fabriquer un nouveau pays qui se va s'appeler la Kanaké et la Calédonie, sans chasser les autres. Vous savez, c'est d'actualité. Dans un an ou deux, ils vont voter. Ce que sont en train de préparer les Kanaks, c'est de dire comment faire pour réussir, par exemple, l'indépendance, sans que ça signifie le départ de tous ceux qui ne sont pas Kanaks. Ouais. Vous voyez? Or, il y a des communautés, il n'y a pas que les Caldoches, il y a des voisins de d'autres endroits, etc. Comment faire pour réussir une des choses les plus difficiles au monde, qui est l'émancipation des opprimés, sans que ça signifie quelque chose, le départ, ou bien simplement l'écrasement des oppresseurs. La victoire contre le nazisme et contre Hitler ne peut pas avoir consisté à faire en sorte qu'il y ait la disparition de l'Allemagne. Et on en arrive aujourd'hui à dire, mais ça y est, on est ensemble. Parce que derrière l'oppresseur, il y a une réalité humaine que l'oppresseur fait tout pour cacher, de façon englobée l'ensemble avec lui. C'est l'histoire de tous les hommes.
Et ça, c'est l'un des enseignements principaux d'Aimé Césaire.
Mais c'est pas seulement d'Aimé Césaire, c'est un enseignement de toute résistance. Un résistant, c'est quoi un résistant en 42 ici? C'est quelqu'un qui n'a pas la haine de l'âme. Vous savez, le nombre de lettres de fusillés, la dernière lettre, si on doit l'écrire, qui dit « ça n'est pas contre l'Allemagne, je n'ai rien contre les Allemands, Boris Vildé, des gens comme ça. Enfin, » mais c'est réel, parce que résistant, c'est pas un agresseur, c'est pas un oppresseur, c'est pas quelqu'un qui veut « ah, moi, je veux le pouvoir pour moi » en essayant de tuer le plus de gens possible. Et parce que c'est le respect de l'humain, mais l'humain, c'est pas que moi. L'humain, c'est pas que les Noirs, l'humain, c'est pas que les Martiniquais, l'humain, c'est pas que les Français, etc. Donc, c'est ça qui est fondamental. Là, il y a quelque chose qui se passe pour les, je dirais, des Noirs d'Amérique, comme Luther King ou Césaire, ou Baldwin, par exemple. C'est que l'exemple, le modèle de lutte que nous avons eu, c'est la lutte contre l'esclavage. Or, c'est une lutte universelle de droits de l'homme. C'est pas une lutte des Noirs pour dire il faut qu'on gagne pour mettre les Blancs en esclavage à notre tour, ou les Amérindiens. C'est pour dire on ne doit pas avoir d'esclaves. Et on vous demandait pourquoi ça. Parce que, où avez-vous pris ça? Nulle part. Ni en Afrique, ni en Europe, ni en Asie, à cette époque-là. C'est comme la peine de mort, l'esclavage, c'était admis. J'ai gagné, je te prends. Tu as gagné, tu me prends. Or, la lutte contre l'esclavage, elle est un modèle d'une lutte humaine de droits de l'homme, et qui fait que la question, c'est que je ne veux pas cette oppression-là, quelle que soit la couleur de celui qui est en face.
Puisque vous me parlez de couleur, et on a évoqué Baldwin, James Baldwin, dit que le matin quand il se lève, il n'est pas noir, c'est ensuite dans le regard des autres qu'il devient noir. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase?
Mais c'est la plus grande réalité. La peau, j'ai un poème dans lequel je dis « la peau est un masque », mais le seul masque qu'on ne peut jamais enlever. Et c'est très bien qu'on ne peut pas l'enlever, parce que c'est quelque part la marque, dans toutes nos différences, hein, homme-femme par exemple, etc., de l'obligation de l'altérité, et non pas du clonage dans l'existence humaine. Ouais. Et donc, blanc, noir, alors on fait des calculs, des inventions, on définit, voilà. Mais ça n'existe pas en soi. Je dis souvent que c'est une affaire de soleil. Hein. Vous avez vu sur l'équateur, c'est plus foncé tous les gens qu'il y a. Et puis c'est plus clair, plus on monte vers le pôle. Et donc ce qui fait l'humain, ça n'est pas ça, mais c'est ce que nous faisons
de ça.
C'est la fameuse phrase que j'ai trouvée dans Sartre quand j'étais élève. J'ai dit, ah, ça c'est les Antilles. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Et donc, le racisme et tout ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui essaie d'enfermer dans la peau. Et la lutte contre ça, c'est quelque chose qui consiste à dire, Je dois reconnaître ma peau, évidemment, pas l'enlever, pas dire « oh là là, ça serait mieux si toutes les peaux étaient pareilles », mais je dois aller au-delà de ce masque, protecteur même parfois, pour aller vers la chair commune, comme disait Césaire, de nos géographies cordiales.
Bien, alors, on revient à Césaire, mais on l'a jamais quitté, en fait, en tournant comme ça. Vous avez connu Suzanne, son épouse,
oui.
Vous avez...
Non, je ne l'ai pas connue, je l'ai connue par son œuvre, elle était morte
voilà.
Déjà.
Vous avez édité un recueil de son œuvre, hein, composé une adaptation théâtrale. Quels étaient les rapports d'Aimé Césaire avec Suzanne, mais ça c'est la sphère privée, on passe, mais avec les femmes en général?
Ah ben, avec Suzanne, je dirais, parce que quelque part, c'était... la femme est essentielle, c'est pas annexe. Et Suzanne Césaire représentait ça. C'était une égale. Pendant les 20 ans de grand amour qu'ils ont eu, on le voit dans les textes, on le voit dans le rôle qu'elle a eu, y compris politique et autres, avec Aimé Césaire, c'était l'égale. Césaire, à la fin, toute fin de sa vie, a osé dire confidentiellement cette phrase, « on respirait ensemble ».
C'est joli.
Hein, c'est très beau, mais c'est très fort, pour les idées, y compris pour la poésie, y compris pour la création. Voilà. Pour lui, l'égalité, elle passe aussi par là. Et les femmes, politiquement, par exemple, dans son parti et tout ça, et aux Antilles, les femmes ont toujours eu un rôle, par exemple, politique majeur. Vous savez que chez nous, dès qu'il y a eu le vote pour les femmes, on a eu une femme députée. Archimède en Vatoul, qui était une amie de Suzanne et Aimé Césaire, etc. Vous savez qu'on était un des premiers coins, enfin, une première région à avoir une femme présidente de région. Les femmes présidentes de conseil général, vous voyez. Et derrière l'image d'oppression, de choses comme ça, faut pas oublier l'image de la lutte pour l'émancipation ne s'arrête pas, par exemple, au sexe, et qui fait que tout le monde en profite. Ça arrive d'ailleurs dans toutes les révolutions, c'est arrivé aussi en Algérie. Et puis après, on peut dire « rentre à la maison ». Mais dans la réalité, c'est ça. Dans toutes les résistances, les femmes ont eu leur place.
Alors, on pourrait parler d'Aimé Césaire des heures, tant il a fait de choses, le théâtre, évidemment, la poésie, les activités politiques, cette conscience créole. Oui, oui. Est-ce que je peux parler de conscience créole en disant Aimé Césaire? Est-ce que vous adhérez à cela?
Oui. C'est beaucoup mieux que chantre de la négritude, comme on dit qu'il faisait horreur.
Bien.
Mais oui, c'est une vraie conscience. Et créole au sens où nous sommes tous créoles.
C'est-à-dire
nous sommes tous des métis. Nous sommes tous, par exemple, de masculin et de féminin. Nous sommes tous d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. C'est en ce sens-là. C'est pas créole au sens martiniquais, 1000 km². En ce sens, c'est une conscience créole. Mais, justement, c'est aussi ancré. C'est aussi parce que c'est martiniquais. Comme il dit, pour trouver l'universel, il faut plonger dans le particulier. Ne jamais l'oublier.
Bien. Alors, toute dernière chose, Daniel Maximin. Quelle est aujourd'hui, pour les jeunes, la portée, l'actualité de la parole d'Aimé Césaire, la présence de ses idées, l'écho de sa pensée?
Alors, il ne faut jamais parler comme ça, parce que la poésie est discrète. Elle n'est pas dans le prime time où il est comme ça. Donc, on peut toujours penser, qu'est-ce qui se passe?
Non, je ne parle pas d'assez médiatique.
Je sais bien. Ouais. Mais des idées comme celle-là, elles sont universelles. Elles sont portées et elles se relaient. Parlant, comme je disais par exemple, Mandela, Luther King, Césaire, qui a commencé, qui continue. Les idées fondatrices sont toujours présentes dans toute résistance. Et la résistance, ça peut être, comme ça s'est passé en France par exemple, des jeunes lycéens de classe de première. C'est eux qui ont commencé. Vous voyez, la première grande, alors on pourrait dire, oh là là, c'est fichu, les jeunes, après tout ce qu'ils ont vécu, après 14-18, les parents, c'est fichu, faut pas compter sur eux, c'est eux qui ont commencé. Et c'est souvent comme ça. Donc, chaque fois qu'on croit que les idées sont perdues, sont finies, etc., elles sont toujours là, sous-jacentes, la flamme, cette fois-ci, est sous la braise.
Daniel Maxima, je retiens que vous avez dû prononcer le mot résistance. Souvent. Bonne dizaine de fois dans cet entretien.
De la convient tous.
Mais bien sûr.
Dans le monde entier.
Merci infiniment.
Merci beaucoup de votre invitation.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Aimé Césaire, le poète de la colère. Une fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisé par Michel Sidorov. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand.